Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient, Mastic. Il est 15h04. On est sur RMC dans le Super Moscato Show. Comme tous les jours, on est là, bien entendu. Il y a le Stifoulet Bray qui est avec nous. Là, le
bonjour, grand petit Vincent.
Ça va?
Ouais, en pleine forme. Ouais. J'ai fait une reprise tennistique ce matin. La chaleur, c'est dur. Hein.
Non, c'est très dur.
Moi,
j'ai fait. Comme j'avais picolé un peu hier, tu sais comment c'est? Un peu de rosé frais, tout ça. Je me suis matin, je punis 15h30 sous le soleil.
15h30.
Ouais, alors j'ai resté comme un camion.
Et les 30 secondes de récup, tu les fais en marchant ou en trottinant?
En marchant, monsieur. Non, je suis un vieux monsieur.
Quand même, très bien.
Mais je suis un vieux monsieur. Et en parlant de vieux monsieur.
Vieux monsieur.
Voilà, il est là avec nous, Eric. Comment il va?
Et comment ça va, mais ça? Salut, Steve.
Bonjour, Eric.
Alors, c'est vrai que. Bonjour, c'est moi, Steve. Salut, Pierrot. Salut, Adrien. C'est vrai que les grands dadés tout blancs comme toi, là, avec la tête de coton-tige, tu dois souffrir, là, non?
Eh oui, il se voûte. Comme les girafes, t'écartent les jambes quand ils vont rouler.
Et quand tu bronzes. Et quand tu bronzes, tu deviens tout rouge, un peu rosé. Pas trop.
Les deux premiers jours, c'est un peu rouge, et après, je me transforme avec un bronzage et un teint allé qui me rend une beauté exceptionnelle.
Bien sûr, oui, c'est ça. C'est Yannick Noah quand tu vas à la plage. D'accord.
C'est Antonio Pimentas. C'est
mytho,
pas
mytho.
Ah non, mais par contre, là, il arrive en débardeur, un petit débardeur côtelé. Tu verrais les brandillons qu'il a.
Une matte religieuse, quoi. Et les petits bras.
Adrien,
comment ça va, les copains?
Qu'est-ce qu'il dit? Tiens, quand on parle de rouquin.
Ah, il y en a un qui a brosé, c'est Adrien. Soit c'est le soleil.
Alors lui.
Soit c'est le rosé.
Question. Oui.
Mais non, mais toi, là, cet été, là, tu vas être bronzé, tu vas être.
Non,
je vais te dire, là, sur les plages, là, c'est, tu vois le domaccione dans l'aventure, c'est l'aventure.
Adrien, c'est visage pas, là, je te l'annonce.
Ça
rougit.
Question moyenne. Quel est l'exploit le plus probable dans les jours qui viennent? Djokovic gagne Roland-Garros ou l'UBB est champion de France? Quel est l'exploit le plus probable? Je parle de deux exploits. Si l'UBB est champion.
Bah mais ils sont même pas qualifiés, l'UBB.
Ah oui, Djoko est qualifié, c'est vrai. Djoko ou l'UBB?
L'UBB.
L'UBB le plus probable.
Ouais.
Parcours du combattant. Magnifique. C'est Vincent qui a choisi.
Ils jouent très bien. Ils vont avoir la baraka. Ça s'est bien déroulé.
Un barrage,
la finale.
Une demi. Finale.
Je laisse ça. Bon. Ouais. Ça, ils sont bons. Mais en
c'est
plus,
bizarre.
Avoir,
c'est bizarre.
Avoir, être Chouinard.
Vincent, quand il nous parle de l'UBB, il leur fait les cornes pour pas qu'ils soient champions de France.
C'est ça.
Et à la radio, il fait style. Oh, il va être champion.
J'ai croisé les jambes, tout.
J'ai suivi le TikTok avec attention, l'Instagram, je sais pas, de Tammy Funa, le joueur de Bordeaux. Faut arrêter la siesta, là. Parce que 48 heures après la victoire, il était encore tenue du match, il était encore en maillot.
Tu l'as vu son virage à vélo avec la remorque derrière.
Il
là.
S'est jeté pour laver son maillot dans la piscine de ton ami de William. La Corniche, établissement bien connu. Voilà.
Content, William. J'ai vu qu'il m'avait appelé, donc je préfère.
L'UBB, parce que l'UBB, tous les gros adversaires, ils les ont déjà battus au moins cette saison.
Ouais, donc Djoko était un peu mal. Qui va nous dire? Le Pierrot qui lui bronze.
Ça ressemble.
Toi, Pierrot, tu bronzes. Ouais, soleil.
Ah, écoute, moi, le printemps me va très bien.
Très bien.
Et en ce moment, je trouve que je suis assez beau gosse.
L'été, ça devient Dolph Lundgren. Tu te rappelles, là, celui qui faisait le bus de Rocky. Ben voilà, Pierrot, il croit que.
C'est vrai que tu te rapproches de Marc Lavoine mai-juin-juillet. Le reste de l'année, je suis Pierre Dorian.
Non, mais lui, il se chauffe. C'est pas Marc Lavoine, c'est un bon portugais de chantier. Quand il est bronzé, Pierrot.
Je dirais plutôt Bordeaux.
Bordeaux.
Djoko, quand même, il y a un sacré poil.
Sinon, c'est pas possible.
Et toi, Eric?
Bah oui, ça paraît. Il est de quel côté du tableau? Parce que du coup, j'ai pas trop.
Il est en bas.
Il est avec Zverev.
Allez, vous.
Non, il passera pas.
Il est là où il y a tout le monde.
Ouais. Vous répondez.
Il est là où il y a tout le monde. Ah ouais, non, mais Bordeaux alors.
L'UBB, le doublé cette année, Champions Cup.
Ils ont déjà battu.
Vous répondez l'UBB à 68% pour l'instant.
Ouais, mais alors il faut qu'ils arrêtent de faire la fête.
Il y a 3 matchs à gagner. Non, mais là, pour l'UBB. 3 matchs d'affilée à gagner.
Ça va se terminer là. Je te le dis, ça va se terminer là. Parce qu'après, ça finit. Les entraîneurs commencent à s'énerver. Le président va commencer à gueuler.
Là, c'est là, bon,
tout le monde, c'est fini là. Aujourd'hui, c'est tout le monde au bercail. Hein.
Alors,
elle est morte.
On peut lancer un appel aux joueurs d'Arsenal d'arrêter aussi de faire la fête là, parce que
c'est pas possible,
je vais aller sévir.
Ça devient écœurant, Eric.
Ah ouais.
T'as ton maillot? Eric,
on a toute la tenue.
Très bien.
Titi, quand même.
Ça doit picoler dans des mauvais pays. Arsenal, là, tout ça.
Alors, alors, au programme, l'actu en direct. D'abord, l'actu en direct, c'est la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont jouer Hakimi, Dembélé? Pour ça, il faudra qu'ils s'entraînent aujourd'hui. C'est à 17h, donc ce sera en direct dans le Moscato Show. Tout simplement.
Piro, arrête de te faire.
Nous faisons de l'information.
Tu vois un mec rater une finale de Ligue des Champions.
Ah bah, des fois, quand t'es blessé, tu choisis pas.
Hein. Oui, Eric, quand tu es juste diminué.
Nous sommes précis, nous sommes le CNN du sport.
Voilà.
Donc voilà, c'est de l'information.
J'ai envie de dire, nous sommes le Mediapart du sport.
Ah voilà. Et c'est qui Penel alors? C'est toi Penel alors?
Moustache, sort de ce corps, Pierrot.
Vincent, la nuit, il fait des cauchemars avec des mecs à moustache. Et il me dit, alors la déclaration fisc.
Avec un drapeau rouge, il a marqué CGT. C'est Penel qui rentre.
Tu crois que c'est Roberto Ballone?
Je peux faire mon Penel arrivé avec Roberto Ballone en pleine nuit, je te le dis.
Après la moustache.
Avec le gland dilaté par la colère.
Fais ça. Après la moustache, quand ça rappe un peu sur les aliments, ça fait bien aussi.
L'actu en direct, c'est aussi Roland Garros. Donc, débat sur Loïs Boisson. Le miracle est-il possible? Elle devrait démarrer d'ici une heure son premier tour. Et puis, quand même, avant cela, on va revenir sur la victoire de Moïse Kouamé. Hein.
Ouais, bien sûr.
17 ans, il remporte un match en Grand Chelem. Le Stade Toulousain, alors là, débat très intéressant parce que je pense qu'il va y avoir des avis très divergents. Les affaires, il y en a. Ternissent-elles les résultats sportifs? Il y en a beaucoup. Voilà, Vincent règle le problème.
Oh là là.
Est-ce qu'on regarde les 5 dernières
on va avoir un numéro de contorsionniste là, je vous le dis de suite.
Restez à la tête. Je commence à faire des étirements.
Non mais c'est un débat très intéressant.
Tu as jamais aimé. L'argent n'est pas mortel.
Et à 17h, une question un peu provocatrice. Les supporters de Nice ne nous en voudront pas. Nice mérite-t-il de descendre en Ligue 2? Tout simplement. Venez avec vos arguments.
C'est bien que tu dises que les supporters de Nice ne nous en voudront pas,
on
bien sûr.
On expliquera comment on a choisi cet angle, comme on dit. Non,
il va
quand on
content.
Est journaliste
d'investigation.
ça tombe bien ce week-end. Je suis allé me faire un petit week-end à Nice.
C'est mort.
Journal moyen.
C'est mort. Hein.
15h45, première édition.
Un documentaire tennis avant sa sortie fait déjà beaucoup parler puisque Rafa Nadal, pour la première fois, va dévoiler une partie secrète de son anatomie. Oh, rendez-vous à 15h45 dans le journal moyen.
Eric, une intervention.
Dans le Kikadi, nous vous offrons un séjour dans un des 400 campings Homer, camping 4 et 5 étoiles en France ou en Europe. Vous envoyez tout de suite Kikadi par SMS au 732-16. Et puis, la liste des 26, ça continue. Il y a encore 10 000 euros à gagner grâce aux joueurs de l'équipe de France.
Ça va être chez nous.
Pour vous inscrire, vous devez attendre le signal. Et dès que c'est parti, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire. On vous expliquera comment. Un petit mot-clé envoyé au 732-16.
J'adore faire gagner 10 000 balles à un auditeur.
Juste avant de débattre, Loïs Boisson, nous accueillons Sarah Pitkowski et Eric Salio. Pour la sensation du jour, nous allons parler de Moïse Kouamé. Salut, messieurs, dames.
Bonjour à tous.
Comment ils vont?
Salut, l'équipe.
Salut, tout le monde.
Alors, il y a quelques minutes, donc Moïse Kouamé a remporté son premier tour face à Marin Cilic à 17 ans. Il est le plus jeune vainqueur d'un match en Grand Chelem depuis Bernard Tomic qui s'était imposé alors qu'il n'avait que 16 ans. C'est un véritable exploit, Sarah, ou il faut relativiser?
Ah non, c'est un véritable exploit. De par la maîtrise du match, alors certes il y avait un petit écart d'âge entre ces deux jeunes hommes, une vingtaine d'années, puisque Marin Cilic, ex numéro 3 mondial, eh bien à 37 ans. Mais celui qui semblait le plus expérimenté, le plus serein sur le court, eh bien c'était le jeune Moïse. Il a tenu et vraiment il a fait un match plein. Donc c'est un véritable exploit et il le fait devant le public français, son premier Roland-Garros dans le tableau. Et on se disait avec Eric juste avant de partager avec vous à l'antenne, c'est que ils n'ont pas eu tort de lui donner une wildcard dans le tableau, dis donc.
Quelle impression t'as fait, Eric?
Écoute, moi je suis allé voir la fin du premier set au bord du court, donc c'était sur le court des Serres, le court Simon Mathieu, et c'est là qu'il le gagne parce qu'il sauve des balles de set avant d'arriver au tie-break. Et dans le tie-break, il a affiché, comme a dit Sarah, une maîtrise incroyable. Et après, je suis parti déjeuner, mais j'étais serein. J'étais sûr que ça allait passer en 3 spicettes. Et après, il a fait son âge. Après, il a fait son âge, Marine. Je pense qu'il était un peu touché, un peu blessé, mais il a rendu un bel hommage en conférence de presse.
Un passionné de tennis ne galvaude pas un premier tour d'un gamin de 17 ans pour un sandwich triangle.
Oui, mais au caviar, Pierrot.
J'ai vu ce qu'il fallait voir. La fin du premier. Après, tu sais.
Est-ce que t'as imaginé des faillots avec de la toile?
Bien sûr.
Prochain tour pour Moïse Kwame.
Ce sera le vainqueur du match contre Cameron Norrie, l'anglais, tête de série 20, et le Cameron. Paraguayen Valero.
C'est bon. En train
de
se jouer. C'est difficile a priori.
Ah bah oui, non, parce que franchement, les deux derniers sets, c'était Papi Cilic.
Papi Cilic.
Mais c'est ce qu'a fait Moïse Kwame. Eric a raison d'insister sur la fin du premier set. T'as 17 ans, t'as deux balles de set à sauver contre Marin Cilic, ancien vainqueur de Grand Chelem. Il l'a fait d'une sérénité folle. Et puis, sa communication avec le public, il est venu aller chercher le public. Moi, j'ai trouvé le gamin très serein. Son plan de jeu aussi, le nombre d'amortis qu'il fait, parce que Papi Cilic, il avait du mal sur les courses à l'avant. Je l'ai trouvé très près du texte. Alors, on va quand même rester juré sur la suite du tournoi pour Moïse Kwame et la suite de son aventure dans le circuit mondial, mais à 17 ans, wildcard, jouer Marin Cilic, tu peux être intimidé, il n'a pas du tout été, donc bravo à lui, bravo gamin.
Qu'est-ce qu'il y a en cours de match là, Eric Salio?
Alors, on a le Valentin chouchou Vachereau, de notamment. Sarah Pitkowski, voilà, Valentin Vachereau, qui n'est pas à la noce, Sarah, dis-moi, donne-moi des nouvelles de Valentin là.
Eh bien, Valentin menait 2-7-0 face au tout jeune qualifié
Thomas Forel.
Thomas Forel, 6-3-6-4, et puis le petit jeune Forel de 20 est allé lui chipper la quatrième manche.
Non,
et là,
troisième.
La troisième manche, j'ai dit quoi, la quatrième, oui. La troisième manche 6-3. Ils sont dans la quatrième manche, 2-1 Vachereau, mais on sent que le match est en train de s'équilibrer. Et puis, on est obligé de vous dire, même si on n'arrête pas de le répéter, les conditions sont tellement chaudes que au bout d'un moment, ça te monte à la tête. Et franchement, c'est pas évident de rester lucide et serein dans tes choix. Donc, c'est un peu normal que les matchs s'équilibrent au bout d'un moment.
Il faudrait qu'il y ait quelques arbres pour cacher la forêt.
Il y a l'Australien Adam Walton, il a quand même sorti Medvedev. Ouais. Il a dit au micro, le climat, ça me va.
Je rappelle que Medvedev était dans le haut du tableau avec Yannick Sinner, qui était son adversaire potentiel en demi. Oui. Donc la route se dégage encore pour Yannick Sinner.
Pour Moïse Kwame.
Que ça passe.
Oui, pour Moïse Kwame, c'est ce qu'on disait.
C'est un peu comme les fables de la Fontaine, la peigne et le vélo.
Allez,
la peigne et le vélo. Ouais.
On passe à Loïs Boisson. Le public français se cherche un héros en tennis.
RMC, le Super Moscato Show.
C'est gagné.
La tombe sur le dos.
C'est incroyable.
Loïs Boisson.
Bonjour. J'ai envie de te remercier pour tout ce que tu viens de nous faire vivre. Les émotions, ton jeu.
C'est ce sport qui me plaît pour m'exprimer, quoi.
C'est extraordinaire.
Franchement, le trou, j'ai mis le fou et puis je suis extérieur. Hein. J'ai dit, on va pas faire un os. Hein.
Aujourd'hui, t'es en demi-finale.
La réussite d'un groupe, d'un collectif et de l'aventure humaine est fabuleuse. Hein. C'est tout.
Raconte-nous un peu tout, Sioma.
On a toujours été ensemble à partir de 10 ans, quoi. Non, c'est sûr, il faut. D'une part, un bon encadrement, quoi.
Encore merci pour toutes ces émotions.
Voilà, j'aime la vie. J'aime croquer la vie à plein d'âge. C'est tout, quoi.
Loïs Boisson, qualifié pour les demi-finales.
L'expérience, ça sert un petit peu, quoi.
Breaking news.
C'est un beau message d'espoir pour tous les neuneux de France, c'est quand même. Hein.
Un bon encadrement. Allez, Loïs Boisson, perd pas de temps. Elle devrait être sur le court d'ici une heure, après une année très, très spéciale. Cette jeune fille, d'abord, est passée de l'anonymat au statut de star du tennis français en 15 jours, il y a un an, en atteignant les demi-finales de Roland. Ensuite, elle a enchaîné les blessures et revient sur les terres de ses exploits avec une seule victoire au compteur en cette année 2026, avec seulement 5 matchs disputés. Alors, le miracle est-il possible, Eric? Est-elle en conditions pour performer, Loïs Boisson? Eric Salio.
Pas depuis très longtemps, mais ça va beaucoup mieux, puisqu'elle a gagné un match à Strasbourg, et surtout elle a dit en conférence de presse, et je pense qu'on peut la croire parce qu'elle avait vraiment le sourire, elle est de nouveau à 100%. Et puis moi, comme je suis très attaché aux chiffres, j'ai noté un truc incroyable. L'an passé, elle avait battu Mertens, qui était 24e mondial. Et qui est en face d'elle aujourd'hui? La 24e mondial. Donc voilà, c'est écrit, ça va passer.
C'est pas Mertens, c'est Mertens.
C'est si c'est pour faire ce genre d'analyse, on prend Raymond Domenech.
Et tu as raison, elles ont le même signe astrologique.
Sagittaire.
Ah ben voilà. Et voilà, donc c'est dans la poche.
Parce que Raymond, il a dit, c'est des connards, les Sagittaires.
Alors, Vincent. Vincent, alors on a vu que l'an dernier, bon, elle sortait de nulle part et qu'elle a performé. Est-ce que cette année, tu y crois ? Est-ce que ça ressemblerait à un miracle ?
Bon, je peux pas savoir, Pierrot. Moi, sincèrement, je peux pas savoir. Je sais pas si l'an dernier, c'était un coup comme ça.
Derrière, elle a gagné un tournoi. Hein.
Ouais, elle a gagné un tournoi.
C'est quoi, Hambourg, hein,
elle a gagné un match là, cette année. On n'a pas de possibilité de dire oui, peut-être oui, parce que là, je pense qu'elle est sur une pente ascendante. Non, là, elle a pas mal. Elle souffre pas. Elle est remise de ses blessures. Quel va être son niveau? Est-ce qu'elle va confirmer les résultats de l'an dernier? Pas sûr, parce que tu sais pas qui tu rencontres. Donc là, Eric, il nous raconte.
Alors, un tirage difficile déjà, puisqu'elle va jouer à Anna Kalinskaya, qui est tête de série numéro 22, premier tour. Hein.
Bon, bon, j'ai aucune idée, Piron. Je peux pas te dire. Okay. Autant je sais tout, surtout. Autant là, je suis un peu gêné.
Sarah Pitkowski, qu'est-ce que t'en penses?
Eh ben, tu sais quoi?
Comme
je vais être comme Vincent. Ouais, ouais. Non, je suis.
Ah, bah d'accord, on est bien, tiens.
Bah ouais, mais on est bien, mais je peux. Sinon, je peux.
On facture pas quand même, là, aujourd'hui.
Je peux vous raconter la messe, hein. Je peux vous raconter des histoires, mais là, franchement, je sais pas quoi en penser, parce que, en fait, alors, la chose dont on est sûr, mais c'est parce que elle nous le livre, c'est elle est à 100% physiquement. Voilà. Mais il lui manque tellement d'heures de vol, il lui manque tellement de matchs de tennis, de matchs d'entraînement, qu'en fait, oui, peut-être qu'elle va enchaîner des bons coups, mais au tennis, l'idée, c'est pas juste d'enchaîner des bons coups, c'est gérer des situations de stress, des momentum. Et donc, en fait, là, ça fait 8 mois qu'elle ne s'est pas retrouvée dans une situation de match où quand t'es à 4 partout, 30-40, tu vas servir comme ça, ou à 15-40 sur le service de l'adversaire, tu vas tenter quelque chose. Elle a pas de référence. Mais tu me parles d'une joueuse qui aurait fait une saison complète, qui se serait arrêtée en décembre et qui aurait joué une fin de saison et qui est un peu blessée en début d'année. Mais même depuis Roland Garros et depuis son tournoi à Hambourg, on a peu de références. Elle n'a joué que 2 tournois à un niveau qu'elle n'avait jamais joué de sa vie. Donc en fait, c'est un grand point d'interrogation. C'est pour ça que si elle gagne aujourd'hui, mais c'est plus qu'un exploit. Okay. Parce qu'une deuxième saison, la confirmation, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Et encore plus dans le tennis féminin, parce que les filles ont eu le temps d'analyser ton jeu. Mais là, elles ont eu le temps d'analyser ton jeu. Et elles ont eu le temps de t'oublier. Non, mais les adversaires, elles l'ont eu le temps de l'oublier aussi.
Kalinskaya, elle va découvrir l'atmosphère du Langlet, tu vas voir.
Oui, très bien. Mais voilà, on a peu de références.
Limite tes interventions, Eric.
Le problème, c'est que Loïse Boisson, elle n'a même pas, j'ai envie de dire, elle n'a même pas découvert ce que c'était le circuit, le grand circuit, en fait, parce qu'elle a débarqué. Elle a débarqué l'année dernière, elle avait quand même pas mal de bons résultats, mais sur des tournois mineurs, elle avait gagné pas mal de matchs avant de jouer Roland. Ensuite, c'est Hambourg, ensuite, il n'y a quasiment plus rien. Tu passes par les qualifs à Wimbledon, elle joue des tournois comme Sarah l'a dit, Madrid, Rome, qu'elle n'a jamais joué. Donc, c'est une découverte grandeur nature. Maintenant, le miracle, vous attendez quoi en fait de Loïse Boisson? Qu'elle refasse demi-finale?
C'est ça, qu'est-ce qu'on doit attendre en fait?
Qu'elle refasse demi-finale? Ça n'arrivera pas.
Mais non.
Pour moi, ça n'arrivera pas. Moi, j'ai envie de lui laisser gagner son premier tour déjà. Ce serait déjà une belle avancée par rapport à ce qu'elle a connu depuis le début de saison, mais ça a raison de dire qu'il y a beaucoup de retard tennistique en fait qu'elle a pris par rapport aux autres joueuses. Les réminiscences de ce qui s'est passé la saison dernière, l'engouement populaire, parce que oui, il va y avoir le feu sur le court derrière Loïse Boisson, mais à un moment donné, ça va pas suffire. Il va falloir mettre le bon coup de raquette, jouer le bon point, la bonne zone au bon moment. Et ces repères-là, elle les a plus. Donc moi, j'ai envie de croire qu'elle puisse gagner un match. Mais arrêtons de rêver.
En fait, on se dit qu'on n'attend rien et on va voir.
Exactement. Le problème, c'est que tout le public attend qu'elle refasse ce qu'elle a fait la semaine dernière.
Tu la reverras jamais, peut-être.
Et surtout, il faut qu'elle arrête de se mettre en tête, et j'espère qu'elle l'a pas en tête, que si elle perd au premier tour.
Qu'elle arrête de se mettre Martel en tête.
Martel en tête, et que si elle perd au premier tour, elle redisparaît du top 100 mondial. Il faut pas qu'elle joue avec.
Il est 15h22 et Vincent a quitté son émission.
Mais
l'a-t-il seulement intégré? C'est depuis 15h, ce n'est pas sûr. Il y a une soirée rose hier.
C'est vrai.
L'avis d'Éric Dimeco, quand même.
Oui, c'est intéressant.
Ouais, c'est super intéressant. Le problème, c'est que l'an dernier, elle fait un exploit. Donc, pour le moment, dans sa carrière, ce qu'elle a fait l'an dernier,
avant de se blesser, elle a montré qu'elle pouvait avoir ce niveau. En remportant le tournoi d'Hambourg. Si,
mais parce tu que sais c'est... pas, des fois, tu mais... joues au-dessus de tes moyens, ça arrive de temps en temps.
Sur quelques semaines,
est-ce que c'est sur une régularité? Est-ce que là, sur une régularité, elle voit un quart ou une demi-finale? finale. Pirot, on ne le sait pas.
Mais non, non, non.
Par contre, t'as un bon tirage. C'est vrai que tu peux un tirage.
Année, mais elle n'a pas vécu Roland. Les filles où il n'y a pas grand-chose. Avant de se blesser, elle a eu le temps de confirmer quand même.
Chez les filles, ça va vite.
Non, non, mais non, mais ça m'a arrangé moi que tu m'interrompes parce que je savais pas quoi dire. Donc à la limite,
il y a autre chose à gérer. Il y a autre chose à gérer, et là je voudrais avoir ton avis Vincent, c'est qu'on minimise peut-être un truc qui est monstrueux pour elle, c'est qu'elle était réellement inconnue avant Roland-Garros l'an dernier, et là, je pense que c'est une star peut-être pas, mais c'est la joueuse de tennis français
elle était méconnue.
La plus connue, celle qui suscite des attentes, ça va pas être évident quand
même. Elle était méconnue et elle peut le redevenir, donc elle peut avoir énormément de pression,
c'est plus facile d'aborder les matchs comme ça dans l'anonymat, sans que personne te regarde.
L'an dernier, elle ne l'avait pas, elle avait que la découverte, la pression normale.
Elle était pas connue des autres joueuses.
Personne ne savait qui c'était, elle était connue même par sa concierge, le matin elle parle, lui dit même pas bonjour, personne ne sait qui c'est. Elle dit ouais, doit jouer au tennis, elle a un sac avec des manches qui dépassent. Il dit ouais, ça doit jouer au tennis, c'est tout. Et donc là, maintenant, par contre, pas pareil. Quand elle rentre, boum, les photos,
oui, mais
les
à chaque
selfies,
fois qu'elle va quelque part, elle passe par la grande porte. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et d'ailleurs, on cherche à expliquer cet engouement derrière cette demi-finale qui s'est, mine de rien, absolument pas éteint en termes d'intérêt médiatique, d'intérêt marketing, mais c'est impressionnant.
Oui, mais parce qu'on n'a rien d'autre, donc on fait feu de tout bois.
Parce qu'elle est en demi-finale de Grand Chelem, c'est pas parce qu'on fait feu de tout bois, parce qu'elle a fait vraiment un truc assez phénoménal l'an dernier.
Oui, mais encore une fois, la régularité.
Oui, mais ça a duré, l'intérêt aujourd'hui, quand elle va quelque part, Loïse Boisson, elle est attendue.
D'ailleurs, Sarah, de ce qu'on sait, est-ce qu'elle le gère bien? Parce qu'elle parle pas beaucoup, elle est très discrète dans les médias. On a l'impression qu'elle aime pas trop ça d'ailleurs. Est-ce que c'est pas trop dur pour la gérer?
Enfin, quand tu prends une déferlante comme ça sur la figure, alors qu'en plus tu joues même pas, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a la frustration de la blessure. C'est quelqu'un qui est introverti. Bah, elle a eu deux choses. Elle a eu une déchirure au quadriceps et puis après il y a eu ce problème à l'avant-bras qui a fait retarder la reprise, qui a été mal soignée, mal diagnostiquée. Donc le 3 mois où on l'attendait à l'Open d'Australie, il s'est transformé en 4 mois supplémentaires. Et c'est quelqu'un qui est introvertie, oui, réservée, et aujourd'hui, il faudrait qu'elle arrive, j'espère qu'elle y arrive, je suis pas dans son quotidien, à ne se concentrer que sur son tennis, son niveau de jeu. Si elle arrive à se concentrer sur son niveau de jeu, petit à petit, ça va revenir.
Approximativement, l'horaire du match, Eric, c'est quoi?
C'est pas immense, Eric.
Non, c'est pas hier, un truc
comme approximativement, il y a Osaka 25-2 au premier.
Ouais, elle joue dans un set et demi.
Merci, Sarah. On continue de suivre les matchs en direct avec Eric Salio. Il reste Eric.
T'as dit Osaka, bon, mais moi j'ai dans un restaurant japonais, c'est des cordes. Hop, t'as vu, il part pour moi, j'ai dit qu'il fonctionne que comme ça.
Alors, nous sommes au lendemain d'une cuite, Vincent, donc faut écouter jusqu'à 18h pour que tout va bien se passer.
J'ai assisté.
En attendant, c'est très important, vous entendez l'alerte, c'est maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer liste par SMS au 732-16 jusqu'à 15h32, liste par SMS au 732-16 pour gagner peut-être la somme de 10 000 euros. Et il y a de moins en moins de maillots à choisir dans l'équipe de France de foot, ils sont plus que 9, une chance sur 9 de gagner 10 000 euros tout à l'heure si vous êtes tiré au sort. Liste par SMS au 732-16. La boxe dans un instant. Nous accueillons Sarah Bourramoun, la vice-championne olympique de 2016.
Il est 15h26, on est dans le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h31, on y revient au Mastic. Oui, on est là avec Eric Dimeco, on est sur RMC dans le Super Moscato Show, le grand Stifounet, Brun, qui est avec Adrien Gouin, Pierrot Dorian, Pierrot, dans demi-heure, claquasse le programme.
Dans une demi-heure, on va vous demander si votre regard a changé sur les performances du Stade Toulousain, maintenant qu'on sait qu'il y a eu pas mal d'irrégularités sur le salary cap. Est-ce que les résultats sportifs sont entachés par ces irrégularités? Voilà. Vous venez nous donner votre avis. C'est un ressenti personnel.
Tu me dirais, il y a de la dope et tout ça, c'est pas pareil. Mais là,
les performances, elles ont été faites, quoi qu'il arrive. Concurrents peuvent râler aussi.
Ça
serait légitime.
Ah, donc il va les défendre.
Donc 32-16, vous jouez votre avis.
Les mecs qui camouillent un peu sur le salary cap.
Franchement, c'est un débat que je trouve intéressant parce que les deux positions peuvent se tenir sans aucun problème.
Bien sûr, on touche au point sportif.
Mais tu avec Didier Lacroix il n'y a pas longtemps, toi.
C'était la mini.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, tu auras un regard objectif sur la question.
Objectif, très bien.
Tout de suite, ta passion, Vincent, à la boxe.
RMC,
le cri du cœur du super
Notre cri du cœur, Sarah Ouramoun, vice-championne olympique 2016, championne du monde 2008 pour la sortie de Frapper Juste aux éditions des Équateurs. Salut Sarah.
Salut à tous.
Comment ça va, Sarah?
Très bien.
Bon. Toujours un plaisir de te recevoir dans le Super Moscato Show. Tu continues la boxe ou c'est mis de côté tout ça?
Non, toujours. Tu sais, quand tu as le virus de la boxe, tu as du mal à t'en sortir. Donc non, toujours.
Alors, c'est un livre, je ne sais pas s'il faut dire une biographie, un livre féministe, les deux. En fait, tu racontes ton parcours. Mais c'est dans le même temps, et peut-être même le principal, tu encourages les femmes à la pratique de la boxe.
Oui, c'est pas un livre plutôt de.
Ça sera l'adaptation, ça devient un producteur.
Mais c'est ça, c'était le petit message un peu. Non, c'est pas un livre de boxe, c'est pas, enfin vraiment, la boxe c'est mon outil, hein, c'est ma vie, c'est 25 ans de vie. Non, c'est vraiment un film sur un. Oh là, j'ai vraiment envie de sortir
un film. Faire,
c'est vraiment un livre sur la puissance féminine, sur 25 ans de leçons de ring. Et l'idée, en tout cas, ce que j'ai envie de partager dans ce livre, c'est la prise de conscience qu'on a tous cette puissance en nous et qu'il faut y aller, quoi. Faut oser monter sur un ring et accepter le regard des autres, oser affirmer son ambition.
Alors, tu revendiques que la boxe est un moyen d'expression féminine, ce qui n'est pas forcément évident. Tu dis, je crois que les femmes peuvent aussi se battre avec leurs poings et que cela a un sens. Pourquoi le besoin de le dire, Sarah ?
Parce que je l'ai expérimenté, parce que je pense que j'aurais aimé, moi...
Aujourd'hui, encore en 2026, les filles ont du mal à se lancer dans la boxe ?
Moins, parce que justement, c'est l'image sociale de notre sport a quand même beaucoup bougé. Aujourd'hui, c'est quand même... Il y a une image peut-être un peu plus premium. On n'est plus dans ce côté obscur qu'il y avait quand moi j'ai commencé, où c'était peut-être un sport qui était cantonné au quartier. Aujourd'hui, c'est presque une carte de visite, hein, de dire je fais de la boxe, parce que ça montre qu'on est courageux, engagé, puissant, qu'on ose.
Juste parce que c'est très codifié et il y a une valeur des coups, quoi. La valeur de la violence, elle est très codifiée, donc c'est les gens qui font ça ont une grande âme. En général, des grands boxeurs, tu as vu le mec qui a rencontré Usyk, ça paraît d'être un mec exceptionnel. Rico, le deuxième ligne, j'espère qu'on a le deuxième ligne, le mec qui fait 2 mètres, qui ressemble à une deuxième ligne, on en parlera, mais il a une valeur incroyable, quoi.
Mais bien sûr, c'est souvent des gens qui portent des valeurs très, très fortes et très nobles.
En gros, tu expliques tout ce que la boxe peut apporter, même si on n'en fait pas son métier, même si on ne va pas très très loin, se défaire du regard des autres, prendre sa place dans l'espace public, renverser les injonctions sociales. C'est tout ça que tu expliques dans la pratique de la boxe, et notamment si elle est pratiquée par des femmes. Et puis, tu dis aussi qu'il y a encore dans la société quand même des stéréotypes. Une fille, ce n'est pas forcément sage, bien élevée et silencieuse. La boxe permet de casser tous ces codes.
Complètement. En fait, ce que je veux partager dans ce livre, c'est ce que la boxe...
Dans ce film.
Oh là là, dans ce film. Donc, ce que je veux partager, c'est vraiment ce que la boxe m'a appris. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu me posais la question sur est-ce qu'une femme peut se battre. Oui, moi, j'aurais voulu qu'on me le dise très tôt, de me dire oui, tu es capable et tu peux aussi...
Mais de se battre au sens propre, avec ses poings.
Se battre au sens propre comme au sens figuré, parce que... Tu vois, apprendre à se battre, c'est peut-être être capable, en cas de, tu vois, de situation difficile, d'être capable au moins de crier et de réagir.
De se défendre. Si tu dis ça, c'est que tu as vécu des choses où tu aurais aimé te battre. Tu aurais aimé te battre et régler tes problèmes toi-même sans subir, quoi.
Ouais, et j'aurais en fait, je pense que comme beaucoup de jeunes filles, j'ai eu le sentiment très tôt que mon corps était une cible et j'ai voulu en faire un outil. Et c'est la boxe qui m'a permis d'en faire un outil et de me sentir puissante et de me dire s'il m'arrive quelque chose, je serais capable
d'envoyer une droite.
Exactement.
Ouais. Et tu expliques notamment que tu as subi une agression et qu'au début, tu es resté pétrifié et que c'est grâce à la boxe que tu t'es dit « Attends, je suis capable de réagir », mais qu'au début, tu n'as eu aucune réaction.
Au début, j'ai même pas pu sortir un son, et j'ai eu un moment de flottement où je me disais « Ça y est, je vais rien pouvoir faire, je suis pas capable ». Et puis, j'ai pris conscience que quand même, je m'entraînais et que peut-être je pouvais réagir. Et à partir du moment où j'ai réagi, en face, le mec m'a lâché les bras. Et bon, après, ça a pris une tournure complètement ridicule, puisqu'il m'a dit, oh, t'es complètement folle, pourquoi tu veux m'agresser?
Ah oui, c'est lui qui t'a.
Mais ouais, c'était complètement dingue.
Ça a toujours été. L'attaquant retourne le truc et se victimise. Ça a toujours été dans toutes nos sociétés. C'est-à-dire que le mec agresse souvent, après, il se démerde pour que ce soit lui qui soit en position d'agresser, quoi.
Donc voilà, c'est ce message, c'est de dire, on peut, même quand on est une femme, même quand on fait moins d'un mètre soixante.
Mais tu lui en as posé une, quand même, ou pas?
Non, même pas. Même pas. J'ai pas eu le temps. Dans la posture, il m'a lâché, il a commencé à me dire, mais t'es une malade. Mais voilà, c'est juste que j'ai eu un moment où je pense que même dans l'expression de mon visage, il y a quelque chose qui a peut-être changé, et lui, du coup, il a.
Peut-être une adresse, un truc, on pourrait lui dire, on pourrait l'inviter, faire un petit guette à part.
Sarah Ouramoun dans le Super Moscato Show. Le bouquin s'appelle Frapper juste aux éditions des Équateurs. Il y a un truc intéressant, c'est que dans tes idoles de jeunesse, il y a un boxeur. Et une athlète, c'est Marie-Josée Pérec et Laurent Boudouani. Il n'y a pas de boxeuse. Même si tu évoques une boxeuse, je pense, allemande, Regina Almich.
Ouais, c'était. Alors, Marie-Josée, c'est parce que c'est elle qui m'a montré le chemin et qui m'a donné envie de rêver, d'avoir beaucoup d'espoir et d'un jour m'imaginer au jeu. Laurent Boudouani, c'est parce que c'est les boxeurs des années 90. Moi, j'ai grandi vraiment avec Norbert Ekassi, Mendy. Enfin, vraiment, c'était pour moi les belles années de la boxe. Et effectivement, Regina Almich, c'était la seule référence féminine que j'avais à l'époque. C'était une Allemande professionnelle qui boxait et qui, pour se faire connaître, alors elle était dans un truc qui me correspondait pas du tout puisqu'elle faisait des photos nues et tout, mais elle disait, voilà, moi, pour pouvoir boxer, il faut que je sois visible et donc je vais passer par... par ce biais-là, et c'était la seule référence que j'avais, et je me disais pas, je veux lui ressembler, mais je veux boxer comme elle l'a fait, et devenir championne du monde.
Donc au-delà du message sur la pratique de la boxe, il y a aussi des moments de ton parcours, et là Vincent, tu vas te régaler, puisque Sarah t'explique que tu as grandi en décortiquant les combats, attention le casting Vincent, de Oscar De La Hoya, Julio César Chavez, Bernard Hopkins, Roy Jones Jr., c'est une époque bénie de la boxe hein, quand même. Hein.
Oscar De La Hoya. C'était délicieux hein, de regarder.
Jean-Baptiste Mendy aussi, qui était un bon boxeur. Jean-Baptiste.
Ouais, j'ai connu Jean-Baptiste et en fait, c'était la même période de mon entraîneur et donc il me racontait un peu tout ses entraînements, son sérieux, sa rigueur, le fait qu'il pesait tous ses aliments et moi ça me passionnait. Je me disais ok, c'est ce qu'il faut faire pour un jour gagner. Ouais.
Dans ton parcours, il y a un truc peut-être on a un peu oublié, c'est que quand tu décides d'aller au JO de 2016. Deux ans avant, 2014, tu es à la retraite. Tu as pris ta retraite après l'échec des JO de Londres.
Exactement.
Et donc, tu es sorti d'une retraite et tu es allé chercher une médaille d'argent olympique.
Effectivement, 2012, je rate les qualifications aux Jeux de Londres. Je décide de raccrocher définitivement les gants. Et puis, pendant deux ans, plein d'aventures. Je deviens aussi maman. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Et il y avait encore cette envie d'aller au bout d'un projet un peu inachevé. Donc,
C'est dur de raccrocher la boxe.
C'est dur, c'est ce que je disais au début, c'est un virus.
Tu boxais pendant ces deux ans ou t'avais tout coupé?
Non, j'avais pas tout coupé.
C'est impossible de revenir sinon.
Je faisais pas de boxe parce que j'étais en colère, je pense, contre mon sport, mais j'ai continué à faire beaucoup de sport, à m'entretenir, sans vraiment penser un jour revenir. Hein.
Du loisir.
Oui, je m'entraînais à la maison, j'allais courir, enfin rien de très sérieux. Mais c'est vrai que ça m'a quand même permis, au moment où j'ai décidé de reprendre l'entraînement, peut-être que ce soit un peu plus facile, bien que c'était quand même très compliqué. J'ai mis quasiment un an et demi avant de retrouver un niveau correct pour espérer me qualifier.
Sarah Ouramoun dans le Super Moscato Show.
10 ans, toi, Adrien.
Explique-nous quel est le but du programme Boxer Insider Club, ainsi que les puncheuses dont tu t'occupes dans tes multiples activités.
Ouais, Boxer Inside Club, c'est des clubs de boxe un peu classiques, hein, enfants, ados, compétiteurs, amateurs et pros. Et en journée, je monte des programmes, notamment une académie qui s'appelle Boxer Inside Academy, dans laquelle j'accompagne des jeunes, donc 400 jeunes par an, à travers des parcours d'éducation par le sport. Donc en gros, on leur propose plein d'ateliers, dont celui de se former au métier du ring, donc juge, arbitre, parce que ça permet de développer des compétences qui sont dingues, de se dire je monte sur un ring, je prends ma place, je prends une décision.
Des jeunes qui n'ont absolument pas... qui ne sont pas préformés, préfabriqués à faire de la boxe, qui arrivent, qui sont un peu largués, qui observent pendant un certain temps avant de se lancer. C'est pas un truc forcément
non,
comment dire, qu'on
des
a
fois,
en soi
des...
ou qu'on connaît à l'avance quoi.
Il y a de tout. Hein. Il va y avoir des jeunes qui ont toujours envie de boxer et qui voilà viennent parce que ils veulent vraiment apprendre le noble art. Il y en a d'autres qui sont poussés par les parents, d'autres qui suivent les copains. Et puis tu découvres des pépites. Là, on a eu ce week-end les championnats de France cadets et on a deux jeunes qui ont démarré en septembre, mais des jeunes qui ont ce que j'appelle moi l'intelligence du ring et qui sont devenus champions de France. Mais c'est comme ça, t'en as pas tout le temps.
L'instinct du combat, ouais. Il y a pas que les cassos, il y a de tout maintenant, tu vois, parce que ça doit être pénible quand t'as que des cassos, là, c'est pénible, c'est vrai, faut le dire.
Non, t'as enfin, ça vient de partout,
parce que c'est devenu à la mode. Ça veut dire que tu peux avoir des gamins du 16e, alors il y en aura moins, bien entendu, parce qu'il faut quand même aller se l'appeler, ils joueront plus au tennis. Mais il y en a quand même ce qui aurait été. Autrefois, non. Autrefois, c'était simple. Hein. C'était Saint-Ouen, voilà, quoi. C'était Saint-Denis.
Avant, c'était les vrais clubs, les clubs associatifs. Avec les anciens qui portaient le truc. Maintenant, tu as des clubs un peu premium. Voilà, tu payes une belle cotisation.
Comme tu dis, les mamans font de la boxe en loisir. Ça fait que parfois, elles peuvent amener les gamins faire de la boxe.
Tout à fait.
Et donc, ça change complètement le paysage du truc. Quand même.
Mais c'est vrai que les visages de la boxe sont complètement changés depuis une dizaine d'années et c'est assez fou. Enfin, vraiment, il y a de tout.
Tu l'as dit, tu finis le bouquin avec une petite mise en garde. C'est sur la pratique du sport qui est en baisse chez les jeunes filles.
Complètement.
Du sport en général, pas la boxe en particulier.
Complètement, on le voit, hein, dès l'entrée au collège, c'est une jeune fille sur deux qui arrête le sport. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Moi, je parle beaucoup des biais sur lesquels on peut travailler, c'est-à-dire vraiment la posture, l'attitude, le mental. Mais il y a encore énormément d'inégalités structurelles.
Vous avez trois fois les règles par mois, les dispenses quand tu es à l'école. Pour se faire dispenser,
ouais, même au-delà des gens qui n'ont pas envie de faire de sport, il y a aussi ceux qui n'ont pas accès facilement à un club, une structure. Et ça, c'est très dommage quand même.
Ouais.
Sarah Ouramoun, donc, c'est Frappé Juste aux éditions Les Équateurs. Merci beaucoup, Sarah.
Merci Sarah. À vous.
Et puis, la boxe repart pas mal. Hein.
C'est un beau film que tu viens de faire.
Christian Mbili en France.
La prochaine étape, prochain round, ce sera un film.
À très bientôt sur RMC.
Si je peux jouer ton rôle, mais bon.
C'est l'heure de parier.
Ça devrait le faire.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet. Salut Christophe.
Salut messieurs. Dames, bonjour à tous.
On parie sur quoi aujourd'hui?
Le Saint-Etienne-Nice. 2-20 la victoire de Saint-Etienne, 3-40 le nul, 3-0-5 la victoire de Nice. Les Verts qui ont eu des difficultés quand même les derniers matchs. Ils ont perdu 3 fois notamment, c'est pour ça qu'ils sont en barrage. Et Nice, c'est une seule victoire sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, donc pas évident à pronostiquer. Surtout la force de Wai.
Nice.
Moi, je vous conseille le nul à 3-40. Et si ça penche d'un côté, il y a quand même le chaudron qui va être en fusion. Donc Saint-Etienne ne perd pas. Moins de 3,5 buts, ça devrait être serré et pas spectaculaire.
Match nul à la mi-temps, victoire de Nice.
Allez, go.
Match nul à la mi-temps, victoire de Nice. Vincent, c'est coté à 6,75.
Eric, on le refait.
Saint-Etienne, Stassin est annoncé en pointe.
Oui. Ouais.
Alors voilà, le combo.
Saint-Etienne plus Stassin pour une cote à 3,80.
Merci Christophe.
C'est Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Journal moyen, première édition, dans 2 minutes sur RMC.
Un documentaire qui sort vendredi, qui fait beaucoup parler. Raphaël Nadal se livre, Vincent, notamment sur son corps. C'est assez étonnant. Il dévoile pour la première fois une partie de son anatomie dans ce documentaire.
Oh là là. Allez, on va voir une roue.
Non.
15h45, le Super Moscato Show. On vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h48, on est dans le Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouet, première édition.
La première édition avec l'actu, la culture, les médias. Nadal, pour la première fois, dévoile une partie de son anatomie. Il cachait cette partie de son corps depuis le début de sa carrière.
Un ongle.
Non. C'est un peu le même, pas les mêmes deux pieds que toi. Argent et foot. Gagner la Coupe du Monde, ça rapporte gros. Hein. Ça, la FIFA, ils ont des sous quand même, Vincent.
Ah, il y a un peu d'argent.
Et puis un Didier Giraud un peu cramé. L'agriculteur des grandes gueules,
impossible.
Ce matin. Un peu cramé.
Impossible.
Vous écoutez RMC, c'est le 2674e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
J'ai écouté les grandes gueules ce matin, ils évoquent la finale du PSG Arsenal à 18h samedi Budapest. Les menaces d'incidents à Paris, on en parle beaucoup. Et Didier Giraud tente une intervention sur ce dossier. C'est très pertinent comme intervention, Didier.
Le match est à 18h, il faut avoir il faut se souvenir de l'horaire, hein, 18h, c'est-à-dire que la soirée peut être très très longue en cas de victoire.
Pourquoi il fait ça ?
Si ça se passe mal, ben justement
parce que c'est à Budapest et qu'à Budapest il y a un décalage horaire.
Non,
on n'est pas à l'heure d'été. À Budapest, on n'est pas à l'heure d'été. Oui,
mais je pense qu'en avançant 6 heures, ils pensent que c'est moins tard le soir.
Non, il n'y a aucun décalage horaire. Il est actuellement 15h49 à Budapest.
Oui, mais peut-être que comme on bouge, nous. Ah oui, c'est la même.
C'est la même. Cramé, Didier, cramé. Non, il avait voulu inventer un truc, mais bon, c'est.
Elle a dit
18h. Maintenant, ce sera 18h les finales de la Ligue des Champions.
On n'a pas senti qu'on vient.
Non, il doit y avoir un décalage horaire.
Quand tu dis c'est maintenant, c'est-à-dire chaque année ?
Désormais, a priori, ce sera 18h les finales de Ligue des Champions.
D'accord.
Ouais.
Pour faire vivre un petit peu l'économie aussi de la ville où ils sont, ça se termine à 20h, que les gens puissent aller festoyer,
aller
sinon
dîner,
c'est pas bête. Mais ils risquent de faire très chaud selon où tu fais la finale.
Et puis, ça te permet, toi Eric, que quand le PSG gagne à 20h, ça te permet de profiter aussi, de fêter un peu le PSG jusqu'à te coucher, quoi, voilà.
Ouais. Je sais pas, il y a quoi samedi ?
Tu le sais,
t'as ton maillot d'Arsenal déjà là, tu le quittes pas, Eric. Tu dors avec. Sans transition, parlons d'un documentaire qui n'est pas encore sorti, mais il fait déjà beaucoup parler, le documentaire sur Netflix qui concerne l'idole de Stephen Brun.
C'est une nouvelle participation ici à Roland Garros. 14 fois vainqueur ici, 22 titres du Grand Chelem. Il est espagnol, Rafael.
Putain de champion, gros.
Alors, c'est vendredi, Rafa, c'est le nom du documentaire. 4 épisodes de 50 minutes. Franchement, Vincent, je pense que tu vas aimer, puisque Nadal, il part de sa dernière ligne droite de carrière en revisitant toute son histoire, mais avec un fil rouge terrible, rapport à la blessure et la souffrance. En fait, dans ce documentaire, on va apprendre que Nadal a toujours été blessé, mais bien blessé. Vous nous dites souvent, les sportifs ont toujours mal quelque part. Lui, c'était à l'extrême, il raconte les infiltrations, il dit que c'était sans cesse, qu'à un moment, il s'est déchiré l'estomac parce qu'il avait pris trop d'anti-inflammatoires. Deux fois, ça lui est arrivé, il avait gardé cette information secrète. Et pour la première fois, il va montrer son pied, vous savez, le fameux pied qu'il a tant fait souffrir. Le syndrome de Müller-Weiss, dont il a été touché. Franchement, il y a des images qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Il a une excroissance sur le dessus du pied. Comment a-t-il fait pour disputer des tournois du Grand Chelem?
Eric, on voit la photo.
Pendant 20 ans, allez voir ça sur les réseaux sociaux. C'est dingue.
C'est sur quoi qu'on peut voir ça? Du coup,
tu regardes, tu tapes Nadal.
Dans la chaussure, il doit avoir une gêne.
Je tape Nadal et il souffre son pied. C'est bizarre, j'ai tapé Nadal.
Non, mais tu peux pas imaginer la souffrance qu'il a vécu. C'est un miracle, sa carrière. Il a joué au tennis pendant 20 ans au très haut niveau.
En plus, des fois, lui, il se mettant en talon aiguille, il devait souffrir.
Non, je pense qu'il pouvait pas, là, Vincent.
Il a le nez de Pierrot en plein milieu du pied.
Les oignons, là. Les
trucs sur les côtés.
Il a
été super
chambré
sur son nez par Stephen.
Il y a un petit délire, là. Mais écoute-moi, Eric, il l'a sur le devant, sur le coup de pied.
Il a une
sur devant, pas les oignons.
Parce que normalement, c'est sur le côté.
Sur le côté, là c'est plein badin, en plein milieu du coup de pied. T'imagines pour mettre la chaussure et tout.
Il a gagné en Roland Garros avec le pied anesthésié. C'était pas des infiltrations, c'était anesthésié. Donc là, c'était fou.
Parce que, il y a des sports où ils leur poussent une oreille sur le front quand même.
Oui, oui. J'avais fait ça.
Il y aura un documentaire. Il y a
des sports où t'as un perche aussi qui sort de.
De l'étui.
Allez, sans transition. Argent et foot. On aime bien parler d'argent et de foot.
Les tarifs du football que moi, parce que moi, les histoires d'argent, ça ne m'intéresse pas.
Il est menteur.
Mais moi, l'argent, ça ne m'a jamais intéressé.
La Coupe du Monde approche. 11 juin.
Ça n'a jamais été mon moteur.
Coup d'envoi. Ouais. États-Unis.
C'est bon quand tu dis
Mexique,
ça. Quand tu passes pour un bon mec, bon, Eric.
Canada.
Non, mais c'est pas pour. C'est pour un bon mec que je dis ça.
Mais si, ça fait.
La Coupe du Monde approche. 11 juin.
Non, au contraire, tu passes pour un con quand tu dis ça.
Budget de la FIFA en dotation. 871 millions de dollars sur la Coupe du Monde. Pour une nation, une sélection qui serait éliminée dès les phases de poule, c'est 12,5 millions de dollars déjà assurés. C'est pas mal. Ils n'ont pas encore dévoilé le quart de finale, la demi-finale, mais le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 repartira avec 50 millions de dollars.
C'est pas énorme. Moi, je te le dis sincèrement, par rapport au budget,
c'est pas mal.
Mais pour un budget de cette Coupe du Monde, le chiffre d'affaires va être de
3-4
milliards.
Il en reste,
c'est rien.
L'Argentine, qui était champion du monde il y a 4 ans, ils avaient gagné 42 millions de dollars.
Mais puisque on est en plein débat sur le prize money au tennis, par exemple. C'est quoi le rapport du prize money pour les joueurs et de ce que rapporte Roland Garros. Le pourcentage, parce que ce serait intéressant de voir ça. Parce qu'à un moment donné, en fait, les joueurs de foot, ils pourraient rigoler aussi. Hein.
Les grands chelems, ils reversent 15%.
C'est pas vraiment comparable, en fait.
Mais écoute-moi,
pourquoi c'est pas comparable? Parce que les joueurs de foot, ils ont des salaires chaque année. Les joueurs de tennis, il n'y a pas de salaire. Il est dépendant que de son prize money, finalement. S'il n'a pas de sponsor.
Non. Alors, attends, je te coupe. Hop. Quand le joueur de foot joue pour l'équipe de France, il n'a pas de salaire.
Oui.
Il n'a que des primes. Mais le salaire, c'est en fonction de ce que tu fais dans le club. Le club ne te paie pas pour jouer en équipe nationale. En équipe nationale, ta prime, de vainqueur ou pas, c'est ton salaire en réalité. Ça ne marche que par prime. Donc c'est exactement la même chose que le joueur de tennis qui fait Roland Garros. Donc j'aimerais savoir, à pourcentage, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça fait le pourcentage par rapport à ce que ça va rapporter à la FIFA?
Ça va faire 3-4 milliards de chiffre d'affaires, une Coupe du Monde.
Même plus,
7 milliards pour des chiffres d'affaires, c'est même pas 1%.
En gros, sur une période de 4 ans, c'est 10 milliards d'euros pour la FIFA. Sur une période de 4 ans.
J'encourage les fédés et les joueurs de foot à faire comme les tennismans.
Tu veux pas faire la grève? Tu veux pas qu'on fasse une carrière avec Litchi pour qu'il y ait Mbappé aussi non plus, Eric?
Celui-là qui a 40
clubs. Non, mais comprends ce que je dis. Steve, c'est pas, on va pas être là parce que Vincent rigolait tout à l'heure quand j'ai dit ça. Pour faire du populisme. Non, mais je sais, mais pour faire du, c'est pas pour faire du populisme. Mais on n'est pas là pour faire ça. Puisque le au tennis, les mecs qui partent du principe que c'est eux qui amènent le monde et c'est eux qui font rentrer l'argent dans les caisses de Roland Garros. Et ben là, dans le foot, c'est pareil. Donc, et pourquoi c'est la FIFA qui se gave? Toi, ça te choque plus que ce soit les joueurs qui gagnent les sous que la FIFA qui fait, que c'est que des rondes de cuir en costume, cravate, que jamais joue au foot.
On te gagne les sous.
Après, Eric, moi je pars du principe aussi que quand t'es un joueur de football professionnel et que tu gagnes très bien ta vie en club, tu vas pas jouer en équipe nationale dans le but de gagner plus d'argent.
Mais
tu vas aussi
prendre. Quand la Coupe du Monde, à la limite, ça va pour les fédés. Et les fédés, ça rejaillit sur le
foot amateur,
sur le foot amateur, etc. Donc moi je pense que le rapport n'est pas bon.
C'est très faible.
C'est une chose, mais tu peux comparer à un sport individuel, c'est pas très facile parce que les mecs, les joueurs de tennis et les joueuses de tennis, ils vont dans les tournois chercher un prize money. Oui, c'est-à-dire que c'est leur activité, c'est de gagner de l'argent dans les tournois.
D'accord, mais là,
c'est pas exactement la même chose.
Oui, mais à la limite, moi je vais te dire, c'est pas pour donner aux joueurs, c'est tu travailles pour ta fédération pour qu'ils redistribuent à tous les clubs amateurs.
Vous, ça vous choque pas que la FIFA gagne 4 milliards et qu'ils en redistribuent pour ça. Vous, ça vous choque pas? Pierrot est devenu très capitaliste du coup.
Il se libéralise.
J'ai juste dit que c'est pas vraiment comparable à un sport individuel.
On l'aura noté.
L'activité, c'est de gagner sa vie en allant chercher des monnaies dans les tournois.
Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a de l'oseille, ça génère du truc. Il faut que les fédérations prennent ces sous-là.
Et les joueurs, justement.
Les fédés, qu'elles puissent justement entretenir leur fédération, les jeunes, les clubs amateurs, les dotations, ça, et voilà. Et même chose pour les radios nationales.
Ça marche pas.
Si, faudrait qu'elles redistribuent davantage pour ceux qui sont au micro.
Dans un instant, nous parlons du Stade toulousain. On vous donnera aussi l'adversaire de Moïse Kouamé au deuxième tour à Roland Garros. A tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.